carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Dans notre panthéon musical, les musiques de la nuit nous apportent la paix, la sérénité ou au contraire la terreur. Daniel Piston, musicologue, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, professeur à l'Université de Paris 4 Sorbonne et directeur de l'Observatoire musical français, nous parle aujourd'hui de pureté et de douceur. Bonjour Daniel Piston.
Bonjour.
Merci de votre venue dans notre studio. La nuit apollinienne, dites-vous, s'oppose à la nuit dionysiaque, ce qui est le comble de l'horreur. Vous nous en parlerez dans une prochaine émission. Quels sont les thèmes de ces nuits apolliniennes? Quels musiciens, quelles réalisations vocales et instrumentales nous ferez-vous entendre?
Alors, je pense que la première des musiques qui peut évoquer la paix du sommeil, c'est la berceuse. C'est la berceuse que nous avons peut-être entendue déjà dans une existence intra-utérine, puisque le fœtus, à un certain âge, a des oreilles. Et c'est, peut-être encore aujourd'hui, je l'espère, le premier rythme qui a bercé notre endormissement. Donc des berceuses, il en est une quantité dans l'histoire de la musique. Elles se caractérisent par un tempo lent, c'est celui de la nuit sereine, un rythme qui n'a rien de brutal non plus, une nuance piano, et elles appellent assez volontiers la répétition. Donc il en est de très très simple, qui n'a pas chanté « Do, do, l'enfant do hein, » et il en est qui, fondés sur ces mêmes principes, atteignent des niveaux de complexité ou de virtuosité impressionnants. Si on regarde par exemple la berceuse de Chopin, elle est faite sur un motif répété, sur lequel des variations, des variantes s'enchaînent, et c'est une pièce pianistique extrêmement difficile. L'autre modèle des musiques de la nuit ou du crépuscule serein, c'est la sérénade.
Celle que l'on chante la nuit pour rendre un hommage.
Par exemple. Et même remarque, des sérénades, il en est beaucoup. Vous connaissez la petite musique de nuit de Mozart. C'est un divertissement, donc la sérénade, c'est un divertissement. C'est le modèle techniquement de la suite, c'est-à-dire des petits morceaux qui s'enchaînent. Et même remarque, il est beaucoup de sérénades, parfois chantées. C'est la Stanzchen allemande, il en est énormément. Donc beaucoup de sérénades, instrumentales ou vocales, dans toute l'histoire de notre musique. Mais j'aimerais aujourd'hui venir plus spécialement à un genre qui ne naît pas avec l'histoire de notre musique occidentale, qui est beaucoup plus tardif, qui est le nocturne. Certes, il existe déjà dans la liturgie des nocturnes qui sont liés à l'écriture, mais...
Ce sont des musiques religieuses, alors,
voilà.
À ce moment-là.
Mais celui dont je veux vous parler, c'est celui dans lequel s'illustra Chopin, qui n'est toutefois pas le premier. En fait, ces nocturnes, qu'on appelait en italien des notturni, car le premier modèle arrive avec ce mot importé, vous savez combien la musique italienne était importante en Europe au XVIIIe siècle. Donc ce notturno, c'est une sorte de romance.
Une mélodie.
Oui, une mélodie calme, qui très souvent d'ailleurs exprime la paix nocturne. Et le plus souvent, elle est chantée en duo. Et des nocturnes vocaux de ce type-là, il y en a vraiment beaucoup. Une des toutes premières œuvres de Berlioz, d'ailleurs, quand il avait 15 ans, c'est un nocturne pour deux voix et guitare. Vous savez qu'il n'était pas pianiste. Et encore dans son ultime œuvre lyrique qui est Béatrice et Bénédicte, il y aura un duo nocturne qui est magnifique pour soprano et alto. Donc le nocturne vocal parcourt toute notre histoire de la musique. Mais là où s'illustre Chopin, c'est du nocturne instrumental. Alors comment est-il né ce nocturne instrumental? Eh bien, c'est très vraisemblablement une transcription de la musique vocale. Une fois que ce notturno a été accompagné au piano forte, au lieu de l'être à la guitare ou à la harpe, comme il y en a eu beaucoup, peu à peu, le piano s'est approprié la composition. Et on connaît ainsi des nocturnes du pianiste irlandais John Field, avant les nocturnes de Chopin.
Qui est un grand spécialiste des nocturnes.
Tout à fait. Et Field a donc vécu en Russie, où il a aussi donné souche à toute une école de nocturnes en Pologne, dans tous ces pays qui ont pu être influencés par ces pianistes qui voyageaient beaucoup. Hein. Field est passé à Paris aussi. Malheureusement, quand Chopin y était, Field était déjà malade, et il est bien certain que Chopin a écrit des nocturnes avant de connaître personnellement Field. Donc c'est un genre instrumental qui a beaucoup séduit tout de suite dans l'Europe des pianistes. Et c'est un genre qui me semble résumer à merveille ce que peut être une esthétique des musiques de la nuit sereine instrumentale. Si on regarde par exemple les nocturnes de Chopin, donc nous en connaissons 21, 18 dans la plupart des volumes, variés et écrits pratiquement tout au long de la période compositionnelle de Chopin. C'est dire que le genre était très important pour lui. Il est certain aussi que ce type d'intimité, de confidence avec le clavier convient bien à cet artiste. Mais quand on regarde l'écriture, on voit quelque chose qui va nous ramener à la berceuse dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que très souvent, c'est une phrase mélodique relativement simple, mais quasi immédiatement après, ornée. Et une des caractéristiques de ces musiques de la nuit, qu'elles soient vocales ou instrumentales, c'est souvent l'ornementation. Alors c'est vrai que c'est le tempo très lent qui permet justement d'orner beaucoup ces musiques. Et l'un des ornements qui exprime très très bien les musiques de la nuit, c'est ce qu'on appelle le gruppetto. Pam, 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 pam. C'est-à-dire cette note centrale qui est ornée par-dessus et par-dessous. Cette espèce d'axe qui irradie en quelque sorte la musique. On peut donner tellement de sens différents à ce gruppetto. Vous l'avez tout au début aussi de Castadiva dans Norma de Bellini, cet hymne à la chère déesse qu'est la lune. C'est encore une musique de la nuit, toujours, et Chopin adorait Bellini. Donc si on écoute par exemple ce premier nocturne, premier dans le volume que nous laisse Chopin, eh bien on verra que ce thème peut se fonder dès le début sur le gruppetto et que ce thème est très rapidement repris et orné chaque fois de façon différente durant le nocturne. Si vous voulez, écoutons le début de ce nocturne. Il n'y a pas que Chopin qui a écrit des nocturnes. Les imitateurs, les émules, les disciples, ceux qui ont été inspirés par cette musique-là, sont légions dans tous les pays du monde. Et l'un de ceux sur lesquels on peut se poser beaucoup de questions, c'est Liszt. Vous savez que Chopin et Liszt ont été liés d'amitié, bon, une amitié un peu tumultueuse parce que les caractères étaient tout à fait différents. Eh bien, Liszt n'a pratiquement pas écrit de nocturne du vivant de Chopin.
Après, oui.
Après, mais les fameux rêves d'amour...
Que nous allons entendre tout à l'heure.
Voilà, qui sont bien connus, sont sous-titrés nocturnes. Mais les rêves d'amour de Liszt, il y en a trois, sont postérieurs à la mort de Chopin. Mieux encore, 10 ans après la mort de Chopin, Liszt transcrit pour piano à 4 mains des nocturnes de Field, une douzaine de nocturnes de Field. Et à cette occasion, il écrit une préface dans laquelle il exalte l'art de Field en disant qu'il est l'inventeur du nocturne pour piano. Mieux encore, juste après la mort de Chopin cette fois-ci, donc c'était en 1849, Liszt écrit une œuvre intitulée « Funérailles ». Il est vrai que cette œuvre est dédiée à des Hongrois, à des compatriotes, mais dedans, on y voit passer une polonaise de Chopin. Et on pense toujours que 49, ses funérailles peuvent être aussi un hommage à Chopin. Mais c'est une polonaise qui l'utilise et pas un nocturne. Et de là, bien sûr, on a déduit que Liszt appréciait sans doute plus les polonaises plus héroïques, hein, qui correspondaient mieux à sa manière que les nocturnes. Mais il n'empêche, je le répète, que quelques années, pas longtemps, hein, dans les années 1850, il écrit des nocturnes qui deviendront très célèbres et qui l'intitulent « Rêve d'amour ». Et ça m'amène bien sûr à dire que la nuit sereine, le nocturne, c'est en général un chant d'amour. D'ailleurs, Romagnesi, un très célèbre compositeur de romances qui vivait dans notre pays à l'époque du pré-romantisme, et du romantisme, a écrit que le notturno à deux voix ne pouvait être bien interprété que par deux personnes qui vivaient sous le même toit. Et ces nuits qui exaltent l'amour, il en est une quantité dans les romances, dans les opéras. Pensez déjà chez Mozart, hein. Pensez à Berlioz, que l'on citait tout à l'heure. Il y a un merveilleux duo d'amour dans les Troyens de Berlioz. Et puis, le sommet de toute cette littérature, c'est sans doute le deuxième acte du Tristan de Wagner. Je veux dire, là, c'est vraiment ce moment où la nuit est beaucoup plus importante que le jour. D'ailleurs, dans les théogonies romantiques, le jour dépend de la nuit. Et cette nuit romantique, on le verra à propos du fantastique dans une autre émission à propos de Schumann, c'est une nuit qui est quasi nécessairement habitée. Habité comment? Par qui? C'est là que les positions peuvent diverger. On pourrait écouter en hommage à Liszt et à cette année Liszt le début du plus fameux de ses rêves d'amour, le troisième. Ce que nous pouvons souligner, c'est que l'écriture nocturne de Liszt n'est pas l'écriture nocturne de Chopin. Chez Chopin, tout est guidé par une mélodie quasi vocale, une mélodie qui entraîne l'harmonie, une mélodie qui va être ornée, comme on l'a dit. Chez Liszt, la manière est tout à fait différente. Certes, dans ses rêves d'amour, sous-titrés nocturnes, il s'approche de Chopin, mais il ne fait que s'en approcher. Je crois que tous les ménomanes avertis ne pourraient pas confondre un nocturne de Chopin avec l'écriture listienne. L'écriture listienne qui est en général beaucoup plus morcelée. C'est pour ça d'ailleurs que Liszt n'a jamais obtenu auprès des foules le succès de Chopin. Je parle des foules de la postérité. Hein, parce que, évidemment, de son vivant, Liszt était un pianiste d'estrade, un chef d'orchestre. Il est certain que Liszt a été infiniment plus applaudi que Chopin, un Chopin qui se cachait, qui a donné très très peu de concerts pendant toute sa vie, mais qui connaît une postérité extraordinaire. L'autre jour, en faisant une petite statistique dans ces bases de données que l'on possède, j'ai vu par exemple que dans la base de données Europress, hein, qui contient beaucoup de journaux en langue française, eh bien, il s'agissait trois fois plus de Chopin que de Liszt. On parle même plus de Berlioz que de Liszt dans la presse française. Heureusement qu'il y a Nelly Liszt, hein, pour essayer de combler ce déficit. Mais peut-être revenons, pour boucler la boucle, dans ces nuits sereines, revenons peut-être à la berceuse. C'est quand même, je le disais, la musique fondamentale de l'esthétique de la nuit. Elle a, par son tempo, par son rythme, par ses timbres aussi. On n'imagine pas une berceuse à la trompette.
Oui, la trompette ne peut convenir qu'à peut-être une nuit infernale.
Oui, elle réveille.
Elle réveille.
En revanche, les instruments en cuivre réveillent. Ce sont, vous savez, ce qu'on appelait au Moyen-Âge les hauts instruments. Il y avait les bas et les hauts. Bas, ce sont les cordes en général, et les cuivres, les instruments à vent d'une façon générale, sont des instruments éclatants. Donc c'est plutôt l'instrument du réveil.
Mais l'instrument des nuits sereines, ce sont les cordes ?
Souvent. D'ailleurs, bon nombre de sérénades chez Dvorak, chez Tchaïkovski. Une très belle pièce de Fauré qui est écrite pour une musique de scène, Shylock, et qui est un nocturne, sont des œuvres pour cordes. Il y a beaucoup plus de sérénades pour cordes au sortir de l'époque romantique et dans le romantisme que de sérénades pour vent et cordes. Bon, il y en a aussi, par exemple, chez Brahms. Hein, et au XVIIIe siècle, il y avait beaucoup de divertissements pour vent. Hein. Mais il faut bien penser qu'à l'époque romantique, les instruments à vent sont devenus de plus en plus sonores. Tous les instruments d'ailleurs, hein, le piano forte est beaucoup moins sonore que le piano moderne. Donc c'est vrai que les instruments à vent se renforçant, eux qui déjà étaient appelés hauts instruments au Moyen-Âge, ces instruments se renforçant, ils conviennent un peu moins à l'expression de ce demi-silence que sont parfois les musiques de la nuit.
Est-ce que les lieders sont aussi des musiques de nuit ou seulement des mélodies romantiques? Où est-ce qu'il y a, aussi une profondeur de la nuit ?
Qu'est-ce qui peut faire qu'un lied devienne une musique de la nuit ? Et peut-être on peut faire la distinction d'ailleurs entre une musique de nuit et une musique de la nuit, ou du moins en musicologie nous la faisons. La musique de nuit, c'est une musique fonctionnelle. Et en ce sens-là, beaucoup de berceuses seraient des musiques de nuit. Les musiques de la nuit sont des musiques savantes qui sont écrites pour exprimer ce qu'on ressent la nuit. Et pour exprimer ce qu'on ressent la nuit, on peut souligner aussi qu'à la fin du XIXe siècle, et surtout au XXe siècle, les modèles vont être assez différents. Alors que le modèle primitif donc, était la berceuse, ou la romance, ou la sérénade, au XXe siècle, on va venir à ce qu'on appelle le modèle sonore naturel. C'est-à-dire que déjà chez Bartok, par exemple dans une suite qui s'appelle « En plein air », c'est une sorte de chant du silence, de chant de la nuit, d'où émergent des sons. Et c'est assez courant, si vous voulez, dans la musique électroacoustique, hein, dans la musique du second XXe siècle. En revanche, chez Bartok, dans « En plein air », considérant que nous sommes dans l'entre-deux-guerres, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que jusque-là, les compositeurs, donc, dans leur musique de la nuit, ont souvent imité les berceuses, les sérénades ou les nocturnes. Hein. Pensez à Fauré, par exemple. Fauré qui nous laisse 13 magnifiques nocturnes, diversifiées, assez diversifiées, certains dramatiques, hein, et pas toujours chopiniens cette fois-ci. Alors que les premiers nocturnes, par exemple, des musiciens russes, que ce soit Scriabine ou Rachmaninov, sont peut-être plus proches de la manière de Chopin. Mais pour revenir, pour clore cette émission à la berceuse, j'aimerais donc souligner que, certes, il est des berceuses qui virent au drame. Mais il faudrait peut-être souligner qu'il y a une expression de la nuit différente selon les ethnies et selon les pays. Vous le savez
selon
bien.
Selon l'imaginaire
tout
de la
fait,
population.
Tout à fait, parce que c'est un peu comme les couleurs. Hein. Il y a des ethnies où le blanc est une couleur de deuil. Chez nous, c'est le noir. Donc c'est un peu la même chose. Si le tempo, le rythme, le bercement semblent être à peu près universels, il est certain qu'il y a des timbres, qu'il y a des manières un peu différentes. Et peut-être pour en juger et pour introduire des nuits un peu plus inquiétantes, nous pourrions écouter ou réécouter la berceuse de l'oiseau de feu de Stravinsky. Parce que là, justement, le thème n'est pas donné par les cordes. C'est le basson qui va donner un thème. Et il est rare dans la musique occidentale que le basson soit porteur de thème. Alors écoutons peut-être ce thème un peu mystérieux et cette progression de la musique qui révèle quand même quelque chose d'inquiétant, c'est-à-dire ces sortilèges qui peuvent aussi habiter la nuit.
Eh bien, avec cette musique, cette dernière musique, nous allons maintenant imaginer ce que seront les futures nuits infernales que nous propose Daniel Piston. Merci Daniel Piston.
Merci
à bientôt
à vous.
Donc.